Donc, on va faire notre cours Bezrat Hashem sur la paracha Vayechi. On prend la page 120, Pasouk Bet. Ferek même tête, Pasouk Bet. Non, je crois pas. Non. D'accord. Donc, c'est Yaakov qui appelle ses enfants à la fin de ses jours et qui leur dit, rassemblez-vous. Bisous, c'est bon. Tous les jours, il a quelque chose dans la chaîne. Et qui leur dit.
Amen.
Donc il leur dit rassemblez-vous, je vais vous dire ce qui va se passer Baharit Hayamim à la fin des temps. Donc comme Rashi explique, Yaakov a voulu annoncer à ses enfants la date de la fin des temps, mais à ce moment-là, parce qu'il la connaissait, mais à ce moment-là, Nistatma Mimenu, à ce moment-là, la date lui a été est oubliée, il a compris que c'était un signe du ciel. C'est un signe du ciel que on ne voulait pas lui donner ce. On voulait pas qu'il dévoile lequel. Alors, avant d'avancer, messieurs, je voudrais déduire le cours d'aujourd'hui, donc pour la refoua chez Lema de Gemara Bat Masuka, Shlomo Waki, les Fred Jephraim Ben Aisha.
Amen.
Et la refoua chez Lema au Bet Rabat, Baruch HaShem, ça marche, comme je vous l'ai dit, et j'ai une personne, on a fait la semaine dernière, on a dédié le cours pour elle, et Baruch HaShem, il va beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Un vrai miracle. Donc, Yaakov est à la fin de ses jours, et il parle à ses enfants, il leur dit, rassemblez-vous, je vais vous dire ce qui va se passer à la fin des temps. Bon, dans les faits, il va leur parler complètement autre chose, parce que le message lui a été bloqué. Alors, Ikevtsu Veshimu Bnei Yaakov Veshimu El Israël Avichem. Donc, il leur dit, rassemblez-vous, et entendez les enfants de Yaakov, et entendez ce que Israël, votre père, va dire. Donc, il se fait appeler Yaakov et Israël en ce verset. Mais c'est pas pour ça que je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter surtout sur la suite. Pasuk Gimel. Donc il va s'adresser enfant par enfant à chacun de ses enfants. Il va leur donner un message. Il va leur donner un message qui correspond un petit peu à la personnalité, qui est à la personnalité de chacun et qui est un petit peu une conclusion de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé dans leur vie. Et chez certains, ce sera même une prophétie sur ce qui va se passer dans la suite. Donc il commence par Reuven. Il dit Reuven, Bechori Ata. Reuven, tu es mon premier-né. C'est-à-dire pas seulement le premier-né de ta mère, parce qu'il avait quatre femmes. Donc, on peut être le premier-né de sa mère sans être le premier-né de Yaakov. Reuven, c'est le premier-né de Yaakov. Bon. Kori Vereshit Oni. Tu es ma force. Et Reshit Oni, ça veut dire le début de ma puissance. Puisque Rashi explique que Yaakov n'avait jamais eu de semence qui était sortie de son corps avant ça. Voilà. La première semence qui est sortie de son corps, c'était pour donner naissance à cet enfant, Reuven. Donc ça veut dire que c'était ni volontaire ni involontaire, jamais. Merci. Donc Kori Vereshit Oni. Yeter Seet ve Yeter Az. Yeter Seet ve Yeter Az, ça veut dire quoi? Normalement, tu aurais dû être beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. Et c'est sur ça que je veux m'arrêter. On va prendre Rashi ensemble. Donc vous prenez la colonne de gauche, dans la page 120, et la première ligne, à la fin de la première ligne. Yeter Seet, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit Yeter Seet, ça veut dire quoi? Tu aurais dû être beaucoup, beaucoup plus puissant. Il dit Raoui Aita Liot Yeter Alachicha Bikeuna. Normalement, tu aurais dû être plus puissant, plus fort que tes frères, Bikeuna, dans la prêtrise. On sait très bien que qui est devenu Cohen? Qui est devenu Cohen? C'est Lévi. Lévi, c'est le troisième enfant. Le Cohen, c'est un métier important. À qui on a donné la Keuna? À Lévi. Donc il lui dit, qui aurait dû être le Cohen? C'est toi. Mais pas seulement ça. Ve Yeter Az. Tu aurais dû être plus puissant. Rashi nous dit, c'est quoi la puissance? Veyeter Az. Bemalchut, c'est la royauté. La royauté a été donnée à qui?
Yehuda.
Donc, ni Yehuda, ni Reuven, d'accord, ne sont les premiers-nés.
Ni Lévi, tu veux dire.
Ni Lévi, pardon. Pardon.
Au nom de quoi la première semence, ça veut donner un roi ou un...
Non, ça n'a rien à voir avec la première semence, c'est le fait que c'est le premier-né.
Le
premier-né dans la Torah, celui qui prend part double, celui qui est en premier.
C'est lui qui a...
Mais ça a été sur le mérite. Ça pas été fondé sur le droit d'aînesse?
Non, c'est fondé déjà sur le droit d'aînesse.
Au départ.
Et même la double part.
Le Harizal explique la chose suivante. Il dit, comment ça se fait que dans la Torah, on accorde toujours une part très importante au Bechor, au premier-né? Pour que, je veux dire, c'est quoi la logique qu'il y a derrière? C'est pas parce qu'il est premier qu'il doit prendre la part double. D'accord? Il n'y a pas de logique. Alors, il donne l'explication suivante. Il dit que, c'est la première chose qu'on fait dans la vie, toujours la première fois qu'on le fait, c'est là qu'on met le plus d'énergie. Et après, bon, enfin, il faudrait qu'on fasse un cours que sur ça même. Et après, écoutez bien, il explique comme ça, il dit, et après, les fois suivantes, l'énergie qu'on retrouve on la tire en vérité de la première fois qu'on l'a fait. Et d'un exemple suivant, il dit par exemple le premier-né. On voit que les parents mettent le plus d'énergie possible dans le premier-né, et puis après les autres enfants, d'où ils vont tirer leur énergie, encore plus des parents, ils vont la tirer du premier-né qui lui a pris des parents.
C'est beaucoup de l'adresse sur le premier enfant.
Ouais. Bien sûr.
Oui.
Ah oui, c'est le plus dur. C'est le plus dur.
C'est pas premier-né, toi.
Pas forcément le premier-né, toi. Je sais qu'ils ont fait une étude aux États-Unis il y a quelques années. Ils ont fait une étude dans laquelle ils ont... Enfin bon, je referme la parenthèse. Hein.
Ça doit être le dernier, la famille.
Dans laquelle ils ont montré que les premiers-nés avaient plus de chances d'arriver au pouvoir et de devenir des patrons, etc., que les autres de la famille. Ouais. Ils ont plus de sens de responsabilité.
Voilà, parce qu'il pouvait compter que sur lui-même, ouais. Beaucoup. Il ne pouvait pas compter trop sur ses petits frères ou ses petites sœurs. Et il dit, bon, c'est moi qui dois... Il peut compter que sur moi. Le petit frère, il peut compter...
Alors, bon. Alors, messieurs...
La double part, c'est même Youssef qui a eu la double part.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, on a ici... Bonne question, très bien, bonne question. Allez messieurs, il faut qu'on arrive, on va arriver. Ok. Pourquoi plus que... Oui, très bien, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ce rachis? D'accord, qu'est-ce qu'on comprend de ce rachis? On comprend de ce rachis que, normalement, c'est Réhouven qui aurait dû obtenir et la royauté et la prêtrise. Dans les faits, Réhouven a perdu tout ça. Pourquoi? À cause de ses propres actes, comme on dit dans le pasouk d'Alet. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Paras kamaim al totar, ki alita mishkeve avicha, asri l'alta yetsuri ala. Alors, en gros, d'accord, parce que j'en ai pas beaucoup de temps pour s'arrêter sur ça, mais qu'est-ce que lui reproche ici, Yaakov? Il lui reproche, d'accord, le zèle et la hâte, quand il a pas réfléchi. Rachid dit, c'est comme de l'eau qui est en train d'avancer et qui réfléchit pas trop où elle va, elle avance, et où elle arrive. Et tu n'as pas réfléchi à ce que tu as fait. Quand qui a lita mishkeve avira asril alta. C'est bien que Reuven a profané, d'accord, la couche de son père, donc le lit de son père, d'accord. C'est ce qu'on va essayer de développer. Bon. Alors, c'est a priori le mot de la fin, et c'est sur ça que je vais m'arrêter, le mot de la fin, c'est que Yaakov en veut à Reuven. C'est presque un échec. Il lui dit, bon, t'as raté ta vie, quoi. C'est ce qu'il est en train de lui dire. C'est très sévère, c'est le dernier mot, ça.
D'autant plus que Lévi et Yehuda, qui ont égalisé tout ça, ils n'ont pas été
plus... Très bien, voilà, c'est ça que je vais m'arrêter. Très bien.
C'est des sanguinaires, c'est des
sauvages. Alors, pas seulement ça, pas seulement ça. Je vais montrer que des fois, ils ont été pires. Très bien, très très bien. C'est la question du rabbi qu'on va développer. D'accord, bien sûr. Là, le mot de la fin, c'est quoi? C'est que, bon, Réhouven, pour l'instant, il a raté sa vie. Enfin, il est passé à côté de ce qu'il aurait dû être. Il dit, t'aurais pu avoir la prêtrise, t'aurais pu avoir la royauté. Du coup, il a rien.
Il a sauvé
très bien, voilà, très bien, très bien.
Oui, d'accord. Seulement parce que c'est
un aîné, ah voilà, vous voyez. Moi aussi, c'est un aîné.
On a compris ceux qui n'étaient pas des aînés.
Les aînés, ils sont précoces. D'accord. Bon.
Il a vraiment dit
Colbert Roche, c'est ça?
Oui.
Ah non, mais. Non, c'est une phrase, c'est un dicton.
Ouais, mais...
Alors justement, on va essayer de développer ensemble. Messieurs.
Le troisième.
Bon, c'est un dicton.
Non, c'est marqué dans la Torah, Colbert Roche.
Où c'est écrit Colbert Roche?
C'est marqué dans la Torah.
Où c'est écrit?
Non,
c'est pas dans le Chumash.
C'est dans le
Chumash. Ah non.
Mais
c'est 1000%, je suis sûr que non.
Paris.
Ah, c'est pas écrit. Bon. J'ai lu la Torah plusieurs.
Je parierais pas, mais avec Paris.
Allez. Bon, messieurs. Allez. Messieurs, il faut du calme. Alors, donc j'étais en train d'expliquer. D'accord. On a dit qu'a priori Réhouven est passé à côté. Réhouven, allez, messieurs, il y a beaucoup d'agitation aujourd'hui. Les aînés, laissez-moi. Alors, a priori, on voit que Réhouven ici a raté le coche. Donc à qui il a donné le coche? Il l'a donné à qui il a donné? Il a donné à Lévi et à Yehuda. Très bien. Bon, je vais m'arrêter sur Yehuda maintenant. On va s'arrêter sur Yehuda. Yehuda. A priori, tel qu'on le présente ici, Yehuda a pris la royauté. C'est-à-dire que Mashiach, Ben David, d'accord, vient de lui. C'est pas rien. Il aurait dû descendre de Reuven. De qui il va descendre? Il va descendre de Yehuda. On va analyser ensemble le comportement de Yehuda. On va voir, est-ce que réellement Yehuda était beaucoup, était bien meilleur que Reuven. Yehuda, la grande faute qu'on connaît de Yehuda, c'est quoi? C'est l'histoire de Yehuda et Tamar. Bien sûr, l'histoire de Yehuda et Tamar. Bon.
Non, mais elle est exemplaire, attendez. Celle-là.
Elle est exemplaire, attention.
Il a devant tout le monde, il a exprimé sa faute, il a pris
d'accord.
Sur lui.
D'accord.
Non, elle est exemplaire, ça.
D'accord.
C'est
alors,
pas une faute,
okay.
Enfin,
c'est
pas une faute. Il a bien
donc,
réagi.
A priori, Choté.
Ah ouais.
Non, il trouvera pas. Enfin, vous pouvez chercher, mais il trouvera pas. Shin Vav, Tet He. Bon, on verra après. Mais enfin, bon, je suis prêt à payer le prochain petit déjeuner si vous trouvez.
Je sais pas si vous avez raison. Moi, parie pour moi.
Mais vous, mais attendez, mais vous en payez deux s'il ne trouve pas.
Non, je ne crois pas. Ça
ne semble pas être
très
d'accord. Je prends les paris pour Mendy, moi.
Vous savez quoi, allez, se paye deux, moi, si.
Il n'y a pas d'accord.
Alors, non, mais bon, c'est, non, pas au prochain, parce que je prépare la paracha toutes les semaines depuis quelques années, donc donc, je t'ai rien expliqué, messieurs. A priori, qu'est-ce qu'a Reuven de moins par rapport à Yehuda? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Yehuda, il a fait une faute avec Tamar, d'accord? Donc, une histoire aussi autour, excusez-moi, de la sexualité, d'accord? La même chose, le même style. Qu'est-ce qu'on nous dit? Yehuda a regretté, Reuven aussi a regretté, il a fait teshuva à Reuven.
Il a regretté quoi?
D'accord. Yehuda, il a dit à Tamar, Tamar a raison. Il a reconnu ouvertement.
Il a arrêté d'avoir une relation avec elle ou quoi?
Oui, il a reconnu que normalement, c'est vrai qu'il avait promis à Tamar que le jour arrivera, on lui donnera le deuxième fils. Le Shéla, d'accord?
Aucune faute d'Arayot.
Ça, c'est pas clair. Bon, Rachid dit que non. Mais bon, c'est une autre question. C'est pas la question. Peu importe la faute. Il y avait une faute. C'est clair qu'il y avait une faute. La faute qu'il y avait, au minimum, c'était que Yehuda avait promis Shéla, et qu'il l'a pas donné.
Ça, oui.
Très bien.
Mais le reste, c'est pas faute d'Arayot. Oui ou non?
Si, il y a une faute d'Arayot. On veut expliquer qu'il a fait des kiddushin, etc. Mais bon, c'était pas clean. C'est clair que c'est pas clean. D'accord?
C'est veuf, lui.
C'est pas clean. Mais en tout cas, ce qu'il a fait, c'est pas clean. Il a pris une femme dans la rue et il s'est dit, bon. Donc, Yehuda, d'accord? Ah oui. D'ailleurs, de ça va descendre le Mashiach parce qu'on dit que c'est écrit que des fois les plus grandes choses doivent venir par la ruse. Sinon, ils sont attrapés par les forces du mal. Donc, c'est clair qu'il y a, c'est pas clean. Non, c'est pas clean. Donc, Yehuda a fauté. A priori. En tout cas, c'est pas clair ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Yehuda a demandé pardon et il s'est excusé. D'accord? Publiquement. Reuven aussi.
Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus?
A priori, rien de plus. Ouais. Bon. Je prends un deuxième épisode. La vente de Yosef. Lorsqu'il y a eu la vente de Yosef. À la base, c'est ce qu'ils voulaient faire les frères. Ils voulaient le tuer. Très bien. Qu'est-ce que Reuven est venu? Attendez. Reuven est venu, il a dit, ne versez pas du sang. Ne le tuez pas. Ashlichu oto el habor. Jetez-le au trou. Dans le puits. D'accord? Donc il dit, ne le tuez pas. Il y a Yehuda qui vient par derrière, et qu'est-ce qu'il dit Yehuda? Il dit, qu'est-ce qu'on va gagner de ça qu'on va jeter notre frère dans le trou? C'est mieux qu'on le vende, en d'autres termes, comme ça on fait de l'argent. D'après vous, lequel est plus grave ici, Reuven ou Yehuda? C'est Yehuda. Il dit, attends, il faut que je récupère de l'argent de
ce temps.
C'est grave!
Oui, mais c'était du
Et pourtant, qu'est-ce qu'on nous dit? D'accord? On nous dit que non! Pourtant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Yehuda a plus de mérite que Reuven. D'accord? Alors bon, c'est une longue tirade du Rabbi dans laquelle le Rabbi reprend toutes les différences qu'il y a entre Reuven et Yehuda, entre Reuven et Lévi. Je vous ai donné que deux exemples. Et dans tous ces exemples-là, on montre que soit Reuven est au même niveau que ses frères, soit il dépasse ses frères. Comme dans cette histoire, Reuven il dépasse ses frères ici. Dans l'histoire de Yehuda ici. Il dépasse ses frères. D'accord?
Sa voix, elle n'est pas double.
Il aurait pu influencer. Oui, t'as raison. Peut-être. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que Reuven a dit, ne versez pas du sang. Jetez-le dans le trou. En d'autres termes, entre-temps, on va réfléchir. Et Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Yehuda, il dit, non, qu'est-ce qu'on va laisser dans le trou? Venez, on va faire de l'argent, on va le vendre. D'accord?
Mais c'était laissé en vie aussi.
Bon.
Pareil.
Attendez. On a dit que Yehuda s'est excusé publiquement. Mais combien de temps a duré les excuses de Yehuda? Ça a duré une seconde, une minute, un jour. Après, c'est fini. Après, il a oublié. Reuven. Pour le fait qu'il a manqué de respect à son père. Combien de fois il a fait teshuva? Rashi nous a dit, d'accord, quelques versets plus tôt, Rashi nous a dit que 9 ans plus tard, après cette histoire qui s'est passée avec son père, 9 ans plus tard, Rachidi Asuk Aya Besako Ubeta Anito, Reuven était encore occupé avec son sac, avec son jeûne, pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu. 9 ans plus tard. 9 ans plus tard, il était encore en train de faire Teshuva.
Bon.
Ah, il dépasse son frère, là. Et pourtant, qu'est-ce qu'il lui dit son père? Il lui dit, ah, t'as raté. Pourquoi t'as raté? Il a fait ce que ses frères ont fait, mieux, beaucoup mieux.
Ouais, mais la tâche, c'est plus fort.
Ah, pourquoi?
Parce que le Kavod Avvahem, c'est plus important que respecter son...
Non, pourquoi? Dans les deux, c'est la même chose.
Bien sûr.
Oui, mais là, on parle du concept, de Teshuva. Vous en avez un qui a fait une histoire, a priori, qui est très grave.
D'accord?
C'est grave, excusez-moi. C'est passé, Yehuda, c'est grave, c'est pas n'importe quoi. Après, il fuit dans la rue, pour son niveau.
Son niveau, c'est
très grave. Excusez-moi, pour un rabbin, c'est beaucoup plus grave de prendre une fille dans la rue que de enfin, bon.
Il n'y
a pas de niveau, mais... D'accord. Bon, quoi qu'il en soit, d'accord. Monsieur. Quoi qu'il en soit, t'as agité aujourd'hui, hein, purée.
Non, il y en a deux.
Aujourd'hui, vous avez le zèle des soldats. Bon, au prochain. Bon. Quoi qu'il en soit, ce qui est clair, d'accord, ce qui est clair, ah c'est Yehuda, toi,
Yehuda,
voilà, il va se défendre. Ce qui est clair, c'est que Yehuda n'est, a priori n'est pas mieux que Reuven.
Il n'est pas mieux.
Mais c'est un pote d'accord.
A priori, tel que le rabbi présente, même c'est le contraire. Reuven est mieux que ses frères. 9 ans plus tard, il fait encore Teshuva.
Ouais.
D'accord. Lorsqu'il a vu que ses frères voulaient tuer Yosef et qu'ils ont vu qu'ils étaient sûrs de le faire, il leur a dit non, attendez, on va aller juste dans le trou, on va réfléchir. C'est Yehuda qui vient qui dit non. Il faut qu'on gagne quelque chose de ça. Ma bête ça. Il dit qu'est-ce qu'on va gagner comme argent.
Vous présentez d'accord pas la faute de Reuven. C'est adultère minimum. C'est très grave ce qu'a fait Reuven avec son père, avec la femme de son père.
Non, il n'a pas fait.
Il n'a pas vu adultère.
Non, il a pas fait adultère.
Ah, oui, il a échangé les lits.
Non, il a échangé les lits.
Non. Il a échangé les lits.
Il a échangé les lits.
Non.
Il a échangé les lits. Son père devait dormir dans un endroit. Il a échangé les lits.
Il a pu aller avec Léa.
Il est parti.
Ah, c'est la taille tuelle.
Il a marqué Shahab.
Mais non. La
faute. D'accord. Qui a l'ita, Mishkeve Avicha.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il a touché, il a touché au lit.
Il a fait en sorte qu'il aille avec sa mère plutôt qu'il.
Bon. Est-ce que ça vous paraît tellement grave?
D'accord.
C'est moins beaucoup moins grave que l'autre qui est parti.
Donc on est d'accord.
D'accord. C'est grave, attention.
Eh, changer la couche, c'est pas changer. Non, changer la couche, c'est pas changer pour lui. C'est changer.
Aujourd'hui, ils ont pris le zèle des soldats, bah, au Hachem. C'est devenu des soldats aujourd'hui. Razak. Donc. J'étais en train de dire, a priori, Reuven, ici, s'est comporté beaucoup mieux que ses frères. Il fait Teshuva 9 ans plus tard. La Avera qu'il a fait, c'est une Avera qui n'est même pas tellement très grave, a priori. Il fait Teshuva 9 ans plus tard. Dans l'histoire de la vente de Yosef, c'est lui, finalement, qui a sauvé son frère. Il a dit non, ne le tuez pas. Al Tishperhudam, ne versez pas du sang. C'est quelqu'un qui est noble. Il dit, ne versez pas du sang. Mettez-le dans le trou, le temps qu'on réfléchisse. C'est ce qu'il veut dire. Et pourtant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Yehuda est meilleur. Pourquoi Yehuda est meilleur? Alors, le rabbi explique ça de manière extraordinaire. Il dit comme ça. Il dit que faut bien faire la différence entre le plan personnel et le plan social. Extraordinaire comme explication. C'est-à-dire que quand on analyse le comportement de quelqu'un, il faut l'analyser sur le plan personnel, c'est-à-dire qui il est, personnellement, et sur le plan social. D'accord? Bon. Alors, on va commencer par le plan personnel. Le plan personnel. C'est vrai que sur le plan personnel, si on essaye de comparer Reuven par rapport à ses frères, par rapport à Yehuda et par rapport à Lévi, sur le plan personnel, Reuven les dépasse de très très loin. C'est-à-dire sur sa personnalité, qui il est. De très très loin, il les dépasse. Encore, surtout Lévi, on sait que Lévi, il fait partie du groupe de Shimon et Lévi,
C'est
clair que sur la personnalité, écoutez bien, la seule Avera qu'on connaît de Reuven, c'est cette histoire du lit qui a échangé les lits, etc. Bon. C'est tout. Et 9 ans plus tard, t'as encore un parfait chouva. Alors, sur le plan personnel, c'est clair que Reuven dépasse ses frères, mais c'est pas sur ça qu'on s'arrête. On s'arrête ici sur le plan social. Sur le plan social, ce qui est le plus important, et ça c'est un grand cri du Jurabi, ce qui est le plus important dans le plan social, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est le résultat de ce que j'ai fait. C'est-à-dire comme ça. Sur le plan personnel, Akadosh Baruch Hu regarde mes efforts. Que bon, même si j'ai pas réussi à arriver où je voulais arriver, si j'ai fait des efforts, je dis bon, ça fait des efforts, kalakava, bah au prochain, bravo. C'est l'intention qui compte. Mais sur le plan social, là, Kadosh Baruch Hu ne n'accorde pas de l'importance à l'intention que j'avais, mais il accorde de l'importance aux actes, concrètement, aux résultats. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, mais c'est bon. Dépendant de lui, de Dieu.
Alors attendez, deux secondes. On va voir. On va analyser ensemble une deuxième fois l'histoire qui s'est passée entre eux. Pendant la vente de Yosef. Qu'est-ce que dit Reuven? Reuven dit, ne versez pas du sang, jetez-le dans le trou. Bon. Jetez-le dans le trou. Qu'est-ce qui aurait pu se passer dans le trou? Qu'est-ce qu'il nous dira Chico? Dans le trou, il n'y avait pas d'eau, mais qu'est-ce qu'il y avait dans le trou?
Des
serpents et des scorpions. Donc, peut-être que son intention était bonne. Certes, c'est sûr que son intention était bonne, mais au niveau du résultat.
Il a fallu un miracle.
Le résultat aurait été mauvais ici. Il aurait failli partir. Serpent, scorpion, c'est...
Mais il a été jeté d'ailleurs dans le
placard. Bien sûr qu'il est jeté dans le
trou. Il avait pas grand chose dans la tête aussi.
Non, Rachid dit En Bomaïm, Aval, Nechashim va graver Miyashbo. Donc ça veut dire comme ça. Encore une fois, j'analyse encore une fois ce qui s'est passé. C'est très très fort. Sur le plan personnel, quand Reuven dit ne versez pas du sang, il réfléchit, il trouve une solution, allez, on le met dans le trou. Sur le plan personnel, il est top. Mais sur le plan social, au niveau du résultat, il aurait pu passer, il serait mort. Serpent scorpion, il aurait tué. Yehuda, sur le plan personnel, quand il dit, mais quel argent on va tirer de ça? Venez, on va le vendre. Sur le plan personnel, zéro. Mais sur le plan social, finalement, c'est lui qui l'a sauvé.
Bien sûr, oui. En vendant, il lui a gardé la
vie. Il l'a sauvé. C'est lui qui a gardé sa vie.
Attends, je suis pas d'accord.
Attendez, vous me laissez arriver jusqu'au bout, s'il vous plaît. Seconde. D'accord. Alors, ça veut dire comme ça, encore une fois, sur le plan personnel, Yehuda, a priori, c'est pas bon ce qu'il a fait. Avec l'histoire de la vente de Yosef. Mais sur le plan social, concrètement, il a sauvé son frère.
Sur le plan social, tu veux dire, sur le plan d'accord. du résultat. C'est
sur le plan du résultat, non, mais sur le plan social, entre les hommes.
Collectif.
D'accord? Le plan collectif. Je continue. La deuxième histoire que j'ai amenée tout à l'heure. J'ai dit, l'histoire de Yehuda et Tamar. Yehuda a une teshuva qui va durer quelques secondes. Quelques secondes. Il va dire, va yomer, tzatka mimeni. Tamar avait raison. Tu vas me dire, sur le plan personnel, c'est un peu léger, quoi.
C'était le minimum.
C'est un peu léger, c'était le minimum, quoi. C'était le minimum. Et on voit pas dans la Torah qu'après il est en train de faire teshuva.
Non, c'est pas
on voit qu'on on tourne la page de seconde seconde.
Hein. C'est publiquement.
Publiquement. D'accord.
Il aurait pu
faire. Oui, mais alors publiquement. Mais il faut faire teshuva intérieure. C'est une teshuva personnelle. Sur le plan personnel, encore une fois, Yehuda n'était pas au tapis. Parce que Reuven, 9 ans plus tard, est encore en train de faire teshuva. Yehuda, on n'a pas de trace. Sa vie a continué comme si de rien n'était. Par contre, sur le plan collectif, hein, comme c'est dit Léo, il a bien donné les bonnes définitions d'avocat. Sur le plan collectif, Yehuda, lorsqu'il a dit Tamar a raison, il a sauvé la vie. Tamar, on a Imoutset, qu'est-ce qu'il dit le verset là-bas? Imoutset, on était en train de l'amener, on allait la tuer, on allait la pendre. D'accord? Qu'est-ce qui vient à Yehuda? Yehuda dit Tzatka mimeni, stop, arrêtez tout. Maintenant, peut-être que sur le plan personnel, Yehuda n'a pas fait une super teshuva, ça c'est pas nos affaires.
Oh, quelle honte.
C'est pas nos affaires. Nous ce qu'on sait c'est que sur le plan collectif, il a fait une teshuva peut-être d'une seconde, mais ça a marché, Tamar n'est pas mort. D'accord? Alors que Reuven, d'accord? Est-ce qu'il y a eu un impact social collectif de cette teshuva? Non. Ça veut dire que de là on comprend quoi? Et ça c'est un point très important à comprendre. On comprend que la grande différence qu'il y a entre Reuven et Yehuda, et Lévi, c'est que Reuven était une personne qui était parfaite sur le plan personnel, mais sur le plan collectif, c'est pas bon. C'est-à-dire que, vous savez, des fois, on a envie de bien faire quelque chose, on part de beaucoup de bonnes intentions, etc. Vous savez, des fois, on part de très bonnes intentions, mais dans les faits, au niveau du résultat, le résultat n'est pas là. D'un autre côté, vous avez des gens qui, à l'intérieur, ils sont complètement tordus, mais ils font du résultat. Qu'est-ce qu'il dit ici, Yaakov, à ses enfants, à Reuven, avant de partir? Il n'est pas en train de casser du sucre sur lui. Il est en train de lui dire, mon fils, sur le plan personnel, tu es très bien, mais il faut accorder de l'importance au plan collectif. Parce que quand on est dans le plan collectif, ce qui compte, c'est pas la cavana que tu avais, le résultat. Tu peux être, même si t'es pourri à l'intérieur, c'est pas nos affaires. Ce qui compte, c'est la mitzvah que tu as fait. Il y a une histoire qu'on rencontre avec l'Admor Hazaken. Une fois, il était en chemin, il s'arrête dans une auberge, d'accord. L'Admor Hazaken, c'est l'auteur du Tania. Donc il s'arrête dans une auberge, qui est tenue par un juif, et l'aubergiste vient lui parler, lui dit, écoutez, j'ai un problème. Bon, c'est quoi votre problème? Il dit, j'ai parlé récemment avec ma femme, vous savez, on donne beaucoup de tzedaka, on donne beaucoup à manger aux gens qui viennent ici, et des fois des gens qui viennent qui n'ont pas de quoi manger, et on leur donne à manger. D'accord? Ils n'ont pas de quoi payer, on leur donne à manger. Et j'ai réfléchi avec ma femme longuement, et on s'est rendu compte qu'on ne le fait pas vraiment pour la mitzvah. On le fait parce que bon, on aime bien le faire, merci, parce que c'est sympa. Non, non, pas la publicité. Non, on le fait pas pour la mitzvah.
On aime bien.
Pour la gava.
Peut-être pas pour la gava, mais bon, on le fait pas pour la mitzvah. On le fait pour d'autres choses, parce que c'est sympa de le faire, parce que bon, on le fait pas pour la mitzvah. Et ça nous dérange beaucoup. Alors, est-ce que vous pensez que peut-être on devrait s'arrêter quelque temps? Le temps au moins d'essayer de faire, peut-être de donner peu, mais au moins de donner bien. Alors, Admor HaZaken s'est arrêté, il réfléchit toujours comme ça. Il a réfléchi. Il a dit, oui, mais le pauvre, il mange? En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, peu importe ce qui se passe dans ta tête sur le plan personnel, ça c'est pas nos affaires, toi tu fais ce que tu veux. Nous, ce qui compte, c'est que le pauvre, il mange. Donc en d'autres termes, même si vous, à l'intérieur, vous vous sentez pourri, entre guillemets, vous vous sentez pas adapté, pas au niveau, c'est pas nos affaires, c'est pas pour ça que le pauvre doit arrêter de manger. Ça, c'est le message qu'on a tiré ici de Yehuda. Que Yehuda...
Non,
moyens.
Pas les moyens.
Non, non, pas dit ça. Attention.
Non,
j'ai pas dit ça.
Non, ce qu'il a dit, il dit le fameux proverbe, Dieu pardonne tout à l'homme généreux.
Ce que, non, attention. Non. Je veux pas qu'on comprenne mal. Yehuda a fait sa chouva.
C'est chez qui, ça?
D'accord. Attendez. Yehuda, messieurs. Yehuda a fait sa chouva. Attention. Non, attention. Je suis pas en train de dire que le but justifie les moyens, Khaz Shalom. Non, attention. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'il y a des gens qui passent plus de temps dans leur vie au développement personnel. Et que sur le plan collectif, c'est pas trop ça. D'un autre côté, vous avez des gens que sur le plan collectif, ils sont top, mais sur le plan personnel, ils travaillent pas trop. Ouais, pas trop, à l'intérieur, il dit, bon, écoute, ça veut dire, dehors, il est top, il rentre chez lui à la maison, je demande à sa femme, il dit, c'est deux personnes.
Ah, mais c'est toujours collectif. D'accord. Chez toi. Non, personnel, oui, bon. Personnel.
Non, c'est aussi personnel. D'accord. Et là, c'est la réponse. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Yaakov, il dit à Reuven, il dit, ce qui compte pour nous, c'est le résultat. Bien sûr que on doit se travailler sur le plan personnel, sur le plan collectif. Mais ce qui compte pour nous, c'est le résultat. Est-ce qu'il y a du chiffre ou pas? Est-ce qu'il y a du chiffre ou pas? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que on doit faire tout notre possible, mais ce qui compte pour nous, dans le plan collectif, d'accord? Qu'est-ce qu'on va tirer de ça? Et c'est pour ça, que, à Reuven, on lui a pas enlevé le droit d'aînesse. Il y avait trois choses. Il y avait le droit d'aînesse, la royauté, et la prêtrise. Le droit d'aînesse, on l'a pas enlevé. Pourquoi? Parce que le droit d'aînesse, c'est une qualité personnelle.
Mais comment on pourrait l'enlever?
D'accord.
Il a même pas reçu le double part de l'héritage.
D'accord, mais techniquement, on peut enlever le droit d'aînesse.
Mais qui aurait été
enlevé? Comme on a enlevé à Esav, il aurait pu lui enlever. Pourquoi on lui enlève pas? Parce que, il lui dit, tu es le meilleur Béhor possible. C'est un super Béhor. Pourquoi? Parce que Béhor, c'est une qualité personnelle. C'est une qualité personnelle, c'est moi. C'est pas forcément que je veux dire faire et dire quelque chose à mes frères. C'est une qualité personnelle. Dans les qualités personnelles, Reuven est top. Par contre, la prêtrise et la royauté, c'est deux qualités qui sont collectives. C'est pas des qualités personnelles. La prêtrise, ben, un prêtre doit s'occuper des autres. Un roi doit également s'occuper des autres. Il lui dit, ces deux qualités, je suis obligé de te les enlever. Non, c'est pas qu'il est égoïste. Ces deux qualités, je suis obligé de te les enlever. Parce que peut-être que tu es bon à l'intérieur. Mais c'est deux qualités dans lesquelles on est obligé de faire du chiffre. Imaginez-vous un Cohen qui a une super cabana, mais que dans les faits, les résultats ne sont pas là. Ou un roi, il y a des super cabanas, mais dans les faits, son pays, c'est une catastrophe. Papa? C'est pour ça qu'il lui dit, yeter, c'est vrai que le mot de la fin, c'est pas forcément un mot dans lequel il est en train de casser du sucre sur lui. C'est qu'il est en train de lui dire, bon, avec le temps, on a défini ta mission.
Donc tu vas voter.
D'accord? Avec le temps, on a défini ta mission. D'accord? Non, Sarkozy, c'est pas Reuven.
Bon, c'est à lui, je pense. C'est super avec
le résultat. Ah oui. Oui, Sarkozy, sur le plan personnel, c'est bon. D'accord?
Et les résultats,
bof.
Ah, moi j'aurais dit le contraire, mais bon. Moi j'aurais dit sur le plan personnel, c'est zéro. Sur les résultats, il est...
Bon, on s'en fiche de Sarkozy, mais...
Non, mais c'est vrai, d'accord? C'est ça. Fais la différence entre Yehuda et Reuven.
Vous allez avoir ce golem.
Voilà pourquoi, hein. D'accord. Voilà pourquoi, hein. Alors, maintenant, comment on fait? D'accord. Pourquoi Reuven a trébuché? Alors, on a quand même un indice, et je finis avec ça. Parce que bon, c'est déjà l'heure. On a un indice on a un indice que, dans la Torah pour nous aider à faire du chiffre. Parce qu'on voit que quand Yaakov a reproché Reuven, qu'est-ce qu'il a reproché? Il a reproché justement de ne pas faire du chiffre. Bon. Il lui a reproché une certaine chose. Il lui a dit « Pachaz kamaim al totar ». Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Dans le pasouk d'Alet. Rashi dit « Apachaz ve abeala asher meharta leharot kaasecha ». On parle ici de la hâte et du zèle. Que une grande technique pour éviter justement de ne pas faire du chiffre, Dieu préserve quand une personne voit qu'il essaye mais ça marche pas, c'est le grand problème c'est la précipitation. Il faut prendre son temps. Il faut réfléchir. C'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, écoute, tu sais, Yehuda, ton frère, Lévi, ils sont pas top. Mais eux, ils réfléchissent. Et comme ils ont réfléchi, même on a vu l'histoire de Shimon et Lévi à Shrem, c'était prémédité. C'est réfléchi. Comme ils réfléchissent, bah, sur le résultat, ils s'arrangent pour avoir du résultat. Toi, sur le plan personnel, t'es super, mais tu réfléchis pas assez. Pachas kamaim al tota. Donc de là, on comprend que nous, bien sûr qu'on a essayé d'être bon sur le plan personnel. Mais le rabbi nous répétait toujours que ce qui compte, c'est l'impact qu'on aura. Après, hein, le plan personnel, tu peux avoir beaucoup de cavanotes. Comment on fait ça? Réflexion. Jamais dans la précipitation. Voilà la qualité, voilà pourquoi Reuven a gardé la Bechora, le droit d'aînesse, mais il n'a pas gardé la prêtrise et la royauté qui, eux, sont des qualités collectives.
Oui, mais Yehuda, il n'a pas trop réfléchi. Ça s'est passé, c'était indépendant de sa volonté.
Yehuda est une personne de résultat.
Mais il n'a pas prédit, il n'a pas prédit ses résultats. Il n'a pas prévu.
Il n'a pas prévu.
De quelle histoire vous parlez? Il y en a eu deux histoires.
Il a fait quelque chose de pourri sur le plan personnel, mais il n'a pas pensé du tout.
Peut-être, vous avez raison.
Bien sûr qu'il y a pensé.
Bien sûr qu'il a pensé. Peut-être qu'encore une fois, sur le plan personnel, c'est beaucoup plus grave parce qu'il a dit il faut que je fasse du fric de ça. Il faut que je fasse de l'argent.
Attends, vous allez
sur le plan personnel.
Comme ça, vous allez dire on va le tuer.
D'accord. Mais sur le plan. Mais sur le plan. Parce que certainement qu'ils sont partagés l'argent. Bon, ça, la Torah ne nous raconte pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent de la vente? En plus, vous savez que Rachid nous raconte, il nous dit qu'ils sont vendus plusieurs fois. Youssef a été vendu plusieurs fois. Il a été vendu au moins 4 ou 5 fois, je ne sais pas si vous savez.
Il y a tous les problèmes des Ismaélites et des...
Ben oui, il a été vendu, ils n'arrêtaient pas de se le racheter. C'est la spéculation, la pure spéculation. D'accord. Ben oui, parce que plus chacun le gardait, il découvrait de nouvelles qualités, et hop, je le rachète. Spéculation, d'accord. En tout cas, ce qui est clair, c'est quoi? Ce qui est clair ici, c'est que le rabbi nous explique que le plus important ici, c'est le résultat, c'est le chiffre. Et que, même si sur le plan personnel, on est top, d'accord? Vous avez une personne, il rentre à la maison, il a pris des cours sur l'éducation, sur le shalom bayit, etc. Mais concrètement, quand ça arrive au résultat, ça explose.
La théorie, tout va bien, dans la pratique, c'est une catastrophe.
D'accord? C'est-à-dire, on peut avoir un Reuven au top, mais il vient à des cours, il participe, etc., il essaye. Mais au niveau du résultat, c'est pas ça. D'un autre côté, on peut avoir un Yehuda, que bon, au niveau des cours, au niveau du travail intérieur, il est pas top, mais au niveau du résultat, le résultat est là.
Et ben, c'est lui qui gagne. Mais les efforts peuvent servir d'exemple aussi.
Sur le plan collectif, non. Sur le plan collectif, ce qui compte, c'est le résultat. Sur le plan personnel, oui. Vous avez raison, quand on va arriver à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu va nous juger beaucoup sur le plan personnel. Mais sur le plan collectif, pour avoir un poste de responsabilité, ah ben oui, on est obligé, Keuna Malchut, on est obligé de le juger par rapport à ses résultats.
Mais dis-moi, mais Dieu nous aide au niveau plan collectif. C'est-à-dire qu'on entreprend des choses, et des fois,
tu fais des efforts.
Alors, il y a une blague. C'est pour ça que M. Benichou a dit, je jugerai pas la question. M. Benichou a dit que quelque part, on a une certaine, c'est une très bonne question que tu poses. Michel, c'est ça?
Ouais.
On a monsieur Benichou qui a dit tout à l'heure, il a dit que quelque part c'est une forme d'égoïsme. Et il a raison. Parce que quelque part le fait de trop penser à sa personne, même quand je fais une mise à jour pour ma personne, et de pas trop se focaliser sur le résultat, c'est une forme d'égoïsme. Oui. Et donc du coup, quand je dis focaliser sur moi, que je veux être parfait, je veux être bien, je veux être au top, etc., mais que je réfléchis pas au produit. Je réfléchis à ma personne, pas à l'objet. D'accord? Eh ben, les conséquences, c'est que moi, peut-être, je me suis travaillé, mais que le résultat sera pas forcément là.
Il y a une blague pour résumer. Il y a un rabbin qui arrive là-haut au ciel, et puis Dieu lui dit, qu'est-ce que t'as fait? Et il raconte, il dit, bon, ben voilà, écoute, c'est pas mal ce que t'as fait, mais il le juge pas vraiment favorablement. Et puis juste après, il y a une espèce de racaille. Un voyou, chauffeur et guide, Et lui, il a tout, on lui donne tout ce qu'il y a, vraiment le mieux. Le rabbin, il dit, je comprends pas, moi j'ai fait la prière, etc. J'ai fait des discours, etc. Et Dieu lui dit, toi quand tu faisais des discours, tout le monde dormait. Mais quand lui conduisait, tout le monde faisait schéma Israël.
Le résultat. Ah, on a un Shimon.
Non, mais bien défendu. Shimon et Vise, c'est à limite sur l'aspect personnel. Jacob ne les a pas trop critiqués au début en disant voilà, votre intention n'était pas si mauvaise que ça. Votre intention, par rapport à. Mais par contre, le résultat, il a critiqué le résultat. Il a critiqué le collectif de ce que a fait Shimon et Lévi. Quand même, Shimon et Lévi, il a quand même fait la Kibouna.
Shimon et Lévi.